20h, 21h.
Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de L'heure du crime. Et ce soir, on va vous raconter l'histoire terrible d'un couple anglais de tueurs en série, Ian Brady et Mira Hinley, qui ont enlevé, torturé, violé, assassiné 5 enfants et adolescents, des garçons et des filles, âgés de 10 à 17 ans. C'était entre 1963 et 1965. Donc cela vous étonne peut-être qu'on en parle aujourd'hui encore en 2017. Eh bien, c'est parce que c'est ce couple de tueurs qu'on avait appelé les tueurs de la lande, parce qu'ils enterraient les corps de leurs victimes dans une lande située près de Manchester. Ces deux personnes ont été condamnées en 1966 à la prison à perpétuité. Mira Hinley, elle, est morte d'une pneumonie, je crois, en 2002. Et Ian Brady, lui, est décédé en fait en mai dernier, en mai 2017. Et l'affaire est encore à la une de l'actualité au Royaume-Uni pour des raisons que la correspondante d'RTL à Londres, Marie Billon, qui est en ligne, va nous rappeler maintenant. Bonsoir Marie Billon.
Bonsoir.
Alors oui, ça peut étonner que cette affaire revienne comme cela dans l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé très récemment finalement, au mois de novembre dernier je crois, hein ?
Mais tout simplement, le corps de Ian Brady a été non pas enterré, mais incinéré, et ses cendres ont été dispersées dans la mer du côté du nord de l'Angleterre. Alors il est mort en mai 2017, mais il n'a été enterré en fait que le 25 octobre, donc il y a vraiment quelques jours. On prend toujours du temps en Angleterre pour enterrer ses morts, mais
oui,
c'est un délai qui est plus long que d'habitude, et c'est pour laisser le temps à un dernier rebondissement morbide dans un sens. Parce qu'Ian Brady, en fait, avait demandé deux choses. Il avait demandé à ce que ses cendres soient éparpillées dans les Landes, donc là où il avait enterré les corps de ses victimes, là où peut-être la dépouille d'une autre de ses victimes, le petit Keith Bennett, est peut-être encore. Et cela a énormément choqué la famille et l'opinion publique, qui lui a été refusé par la justice. Et puis il avait fait aussi une autre demande, que soit joué à ses funérailles le songe d'une nuit de sabbat de la Symphonie Fantastique de Berlioz. Une musique que la presse britannique a présentée comme satanique parce qu'elle parle d'orgie et de sorcières, mais donc un juge de la haute cour a refusé sa demande et a dit que Brady n'aurait droit à aucune musique, aucune cérémonie. Ouais. Finalement, les Britanniques n'ont su qu'après que le corps de Brady avait été incinéré, donc en secret, cendres disposées en mer. La justice a préféré que l'annonce soit faite après. C'est un peu l'ultime preuve de l'influence que Brady a conservée sur les émotions des Britanniques à travers toutes ces années.
Bien sûr, et pour éviter évidemment d'en faire un lieu de pèlerinage, mais c'est vrai que la personnalité des tueurs en série est toujours quelque chose qui étonne, parce qu'on se demande ce qui les anime quand ils veulent encore, même du fond de leur prison, se projeter dans leur mort et qu'on parle encore d'eux au moment de leur funérailles, mais finalement, c'est ce qu'on fait. Alors, il faut peut-être maintenant dire, Marie Billon, que cette histoire tient les Britanniques en haleine depuis des décennies.
Mais c'est une histoire qui a vraiment littéralement passionné au moins deux générations de Britanniques. La preuve, en 2006, quand on en parlait moins dans les bulletins d'information, eh bien la chaîne privée ITV en a fait un téléfilm. Le fait que Ian Brady et Mira Hinley aient été le premier couple de meurtriers d'enfants qui ne pouvaient pas être exécutés, ça a beaucoup chamboulé les Britanniques. À l'époque, ça a presque recréé un nouveau débat sur la peine de mort. Et puisqu'ils n'ont pas été exécutés, eh bien la saga, tout simplement, a pu continuer sur plus des dizaines d'années, en fait. Et il y a eu tellement de rebondissements. Le nombre de victimes connues qui a augmenté à la plus grande horreur de la population, les appels à la clémence de Mira lors du procès dont on parlera certainement ensuite.
Bien sûr.
Elle a été considérée comme la femme la plus maléfique d'Angleterre et pourtant elle disait « mais vous pouvez me relâcher, maintenant je ne suis plus un danger pour la société ». Et à côté, Ian Brady qui lui a trouvé de nombreuses manières pour attirer l'attention du public, même si évidemment il ne s'en est jamais attiré la sympathie. Mais ce qui a vraiment le plus choqué les Britanniques, c'est l'obstination de Brady à ne pas vouloir révéler où se trouvaient les corps. Alors pourquoi, alors qu'on savait qu'il allait finir sa vie en prison, il le savait aussi, pourquoi ne pas offrir ce réconfort aux familles? Eh bien, la cruauté de ce meurtrier, selon les Britanniques, ne s'est pas manifestée que lors de ses actes, mais vraiment jusqu'à la fin de sa vie et donc même au-delà.
Alors, il faut dire pourquoi ils n'ont pas été exécutés. C'est parce que je crois qu'ils ont été arrêtés en 1965. Hein, le procès a eu lieu en 1966. Et la peine de mort venait ou allait être abolie, je crois, en Grande-Bretagne, hein, à ce moment-là.
C'était vraiment tout récent, et c'était vraiment le tout premier couple de meurtriers pour enfants surtout, qui ne pouvait pas légalement être exécuté. Le juge a bien insisté là-dessus, il leur avait donné la sentence la plus forte qu'il le pouvait selon les lois britanniques actuelles.
Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir fait ce point sur l'actualité, Marie Billon. On va maintenant raconter plus en détail l'ensemble de cette affaire absolument épouvantable. Il faut quand même garder en tête que nous sommes devant une affaire exceptionnelle. C'est une auditrice de l'heure du crime qui s'appelle Ludivine, une Française qui vit au Royaume-Uni, qui a attiré notre attention sur le fait qu'on reparlait beaucoup de cette histoire en Grande-Bretagne. C'est pour ça qu'on vous a appelé pour vous demander de faire le point. Et cette auditrice, Ludivine, a été évidemment, comme tout un chacun, frappée, choquée par cette histoire qu'elle a découvert à l'occasion de ce retour dans l'actualité de l'histoire de ce couple de tueurs en série. Et on va maintenant en parler avec un invité qui est l'homme de la situation, puisqu'il s'appelle Benoît Hamez. Il est historien et il a publié en 2016 un livre intitulé « Les couples de tueurs en série les plus monstrueux », un livre paru aux éditions La Boîte à Pandore. On va le retrouver dans un petit instant après une pause.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Les tueurs de la Lande, les meurtres de la Lande, ces expressions ont été des titres qui ont fait pendant des mois l'actualité, la une de l'actualité en Grande-Bretagne. Tout le Royaume-Uni a été absolument sidéré en apprenant en 1965 l'existence d'un couple de tueurs pervers, sadomasochistes, ces deux personnes, Mira et Yann Brady, Mira Hinley. Ensuite, il y a eu le procès en 1966 sur lequel nous reviendrons évidemment très longuement tout à l'heure avec mon invité. Mais d'abord, Benoît Hamez, je rappelais le titre de votre livre « Les couples de tueurs en série les plus monstrueux ». En fait, le tuer en toute complicité, tuer en série, c'est quelque chose qui, heureusement d'ailleurs, demeure quand même relativement rare, et c'est quelque chose de véritablement à part dans les annales criminelles.
Oui, tout à fait. Les tueurs en série sont déjà, c'est déjà des criminels à part, mais en plus, les couples de tueurs en série, c'est encore plus minoritaire dans la catégorie des tueurs en série. Généralement, les tueurs en série sont solitaires et ils n'ont besoin de personne.
Alors, vous êtes penché sur l'histoire que vous racontez donc dans ce livre dont je viens de rappeler le titre, sur un certain nombre de couples. Évidemment, tous ces noms, en tout cas pour ceux qui sont proches de nous, européens, on les connaît, hein, Dutroux, évidemment, mais il ne faut pas dire Dutroux, il faut dire Dutroux et Michel Martin. Fourniret, il faut dire Fourniret, Michel Fourniret et Monique Olivier. Et d'autres sont anglo-saxons, pour aller vite.
Oui, il y a des. Donc j'ai pris des couples de tueurs en série anglo-saxons, américains, canadiens, bien sûr français et belges qu'on connaît déjà. Mais c'est vrai que on voit des similitudes dans le fonctionnement, dans le modus operandi de ces couples qui ont besoin l'un de l'autre pour pouvoir arriver à leur fin.
Voilà, avec cette question que moi j'ai toujours posée, parce qu'elle est obsédante aussi, elle obsède pas mal de ceux qui s'intéressent à ces sujets, c'est de savoir si les deux ne s'étaient pas rencontrés, est-ce qu'il y aurait eu un meurtrier et lequel. Alors ça, on y reviendra tout à l'heure ensemble justement, mais pour faire des comparaisons, il faut d'abord savoir de quoi on parle, et là on va découvrir ensemble, grâce à vous, l'histoire donc des tueurs auteurs de La Lande, Yann Brady et Mira Hindley. Et j'ai envie de commencer cette affaire par la fin, c'est-à-dire par l'épilogue. On dit toujours qu'il y a un grain de sable, un événement extérieur qui quelquefois interrompt une carrière criminelle. Là, on a l'impression que ce n'est pas le hasard, mais vous allez comprendre pourquoi je pose la question tout de suite. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé le 7 octobre 1965.
Alors, le 7 octobre 1965, David Smith, un jeune homme donc de Manchester, de 17 ans, appelle d'une cabine téléphonique vers 3 heures du matin. Il appelle la police. Il est apeuré et il va expliquer ce qu'il a vécu la veille au soir. Alors, il faut savoir que donc, la veille au soir, il se trouvait avec sa compagne, Maureen Hindley, qui est donc
la sœur de Mira Hindley. Bien sûr.
Et Mira Hindley lui a demandé de la raccompagner chez elle. Et
Qu'elle avait peur du noir, elle
voilà,
lui dit.
Voilà, semblerait. Ouais. En tout cas, c'est le prétexte qu'elle a donné.
Ouais.
Et puis, elle lui a dit aussi qu'il pourrait peut-être boire un verre avec Yann Brady. Ils se connaissaient, ils étaient
son
amis.
Compagnon.
Voilà,
ouais.
Son compagnon. Et il connaissait l'existence de David Smith. Mais Yann Brady ne fait que le saluer et il part dans une autre pièce. Et après quelques minutes, il entend un grand cri. C'est Mira Hindley qui crie. David Smith arrive dans la pièce et il voit une scène horrible, une scène de meurtre, où Yann Brady est en train de rouer de coups, des coups de pied, mais aussi des coups de hache, un jeune homme.
Un jeune homme. Et il va assister donc en direct à un meurtre, et il se dit certainement mais qu'ils sont devenus fous parce que il les connaît, il ne les soupçonne pas, et il continuera d'ailleurs par la suite à dire que voilà, c'est pas possible que des gens comme ça aient fait ça.
Oui.
Il a peut-être pas dit toute la vérité.
Oui.
Hein.
Oui.
Mais là, ce soir-là, donc il s'échappe en fait, il s'enfuit.
Oui.
Et il va
oui.
téléphoner à la police, quoi.
Oui, alors ouais. En fait, il faut quand même rappeler que David Smith, c'est pas un enfant de cœur, c'est quand même quelqu'un ouais. qui a commis des cambriolages, des vols. Mais maintenant, voilà, il n'a tué personne et il ne pouvait pas penser que Yann Brady, même si Yann Brady lui avait déjà parlé de crimes, de viols, mais il ne pouvait pas penser que Yann Brady allait passer à l'acte.
Ouais. Alors, justement, c'est quand même quelque chose qui pose une vraie question, qui a été d'ailleurs évoquée au cours de l'enquête et au cours du procès, c'est que il était évident, quasi évident, qu'un garçon assistant à un meurtre et qu'on ne tue pas derrière, on ne tue pas le témoin gênant, ce témoin va parler. Donc, est-ce que, alors, consciemment, inconsciemment, ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait pour se faire arrêter ?
Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à déterminer, puisque les tueurs en série ont un fonctionnement tout à fait différent de nous. Et à la fois, ils peuvent montrer leur intelligence, leur côté manipulateur, leur stratégie, leur fine psychologie. Et d'un autre côté, ils sont capables de choses qui nous paraissent complètement absurdes. Alors, il semblerait que Yann Brady a pensé a voulu montrer à David Smith qu'il était capable de passer à l'action. Il lui en avait déjà parlé de ses théories sur le crime. Mais voilà, il fallait passer à l'acte, il fallait lui montrer. Et il semblerait que Yann Brady ait dit à David Smith, tu vois, je l'ai fait, je suis capable de le faire. Et sans doute, peut-être aussi pour tester David Smith, est-ce que tu es prêt à faire ce qu'on est en train de faire?
Oui,
un peu comme Yann Brady avait fait auparavant avec Mira Hindley, en lui disant, voilà, est-ce que tu es prêt à me suivre? Voilà, c'est sans doute la même logique.
Alors, tout à l'heure, on va raconter ce qu'on a découvert à l'occasion de l'enquête, parce qu'il faut dire que quand ces gens sont arrêtés, les policiers vont trouver dans la maison le corps du jeune homme qui a été véritablement massacré à la hache, comme David Smith l'a raconté. Donc on aurait pu penser qu'il avait inventé l'histoire. Mm-hmm. Non, pas du tout. Et évidemment, le couple ne peut pas nier l'acte en lui-même. Quoique, tout de suite, Brady dit Mira, elle n'a rien fait. Hein. Je crois qu'il la protège tout de suite. Mais par la suite, on va s'apercevoir dans l'enquête qu'il y a, depuis quelques années, des enfants, des adolescents, garçons et filles qui ont disparu. Et alors, vous allez nous dire dans quelles circonstances Brady et Inley, Mira et Yann vont finalement avouer qu'ils ont tué, dans des circonstances d'ailleurs particulièrement horribles, ces cinq enfants et adolescents.
Oui, tout à fait. Très rapidement, on va se rendre compte que Mira Inley connaît l'existence des crimes commis par Yann Brady, qui sont complices, qui sont ensemble. Donc très rapidement, ils vont quand même être arrêtés à deux. Au départ, c'est Yann Brady. Et puis alors après, très rapidement, Mira Inley va également être arrêtée parce qu'on a découvert dans sa voiture un manuscrit de 3 pages dans lequel elle décrit en détail comment son mari, elle, ont organisé justement le meurtre d'Evans. Et puis rapidement, on va se rendre compte, comme vous l'avez dit, qu'il y a eu d'autres enfants, là, plus jeunes, qui ont mystérieusement disparu au cours des 2 dernières années et dans la même région.
Ouais. Alors voilà, donc le décor est planté, c'est une monstrueuse et énorme affaire criminelle qui fait la une de l'actualité. Évidemment, on va s'intéresser au passé de ces deux personnes, voir comment ils se sont rencontrés. Et puis finalement, qui a fait quoi ? Et ça va être un jeu de piste assez difficile parce que, au cours de l'instruction et puis même au cours de leur incarcération, ils vont changer l'un et l'autre de version. Vous allez nous raconter tout cela dans un petit instant.
RTL aime la musique.
Des standards. Money, money,
mais aussi des nouveautés. We are from the north. We came
from the south. Et des découvertes.
On aime la musique sur RTL.
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 Première radio de France.
L'heure du crime.
Sur RTL.
Les tueurs de la Lande, un couple pervers, sadomasochiste, Yann Brady et Mira Inley, qui ont en 2 ans, entre 1963 et 1965, tué au moins 5 enfants et adolescents de 10 à 17 ans, garçons et filles, dont ils abandonnaient les dépouilles dans la Lande. Enfin, ils abandonnaient et ils cachaient soigneusement les corps de leurs victimes dans la Lande, dans la région de Manchester, d'où leur surnom, les tueurs de la Lande. Il y a eu un procès retentissant dont on va parler dans un tout petit instant avec mon invité. Mais d'abord, Benoît Hamet, il faut raconter d'où viennent ces gens parce qu'ils ont eu une vie, une existence, une enfance avant de se rencontrer. On commence par qui ? Par Mira peut-être ?
Oui, on peut commencer par Mira. Mira, elle est de la région, justement, de Manchester. Elle a grandi dans un quartier assez défavorisé. Son père était alcoolique, violent. Il avait été soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Parachutiste, hein, voilà, des commandos parachutistes, voilà. Mais ils n'étaient jamais vraiment faits à la paix, à l'après-guerre.
Exactement,
en fait,
exactement, hein, tout à fait. Ouais. Et donc, voilà, quelqu'un, un père violent.
Violent, donc il a frappé, qui frappait sa mère.
Voilà, exactement, qui l'a frappé, qui frappait sa mère et qui avait une éducation un peu particulière puisqu'elle était uniquement basée sur la violence. C'est-à-dire que pour survivre, il fallait exprimer sa violence, il ne fallait pas montrer ses émotions, mais il fallait se battre dans la vie et au sens propre comme au sens figuré.
Et vous racontez une anecdote, elle a 8 ans, Mira Inley, elle rentre de l'école, elle a des bleus partout, elle a reçu des coups, elle saigne, elle va se plaindre à son père, elle va se réfugier dans les bras de son père et lui, il est très distant. Il lui dit, maintenant, tu règles tes affaires. Maintenant, il faut que tu retrouves ce garçon et que tu lui fasses payer ce qu'il t'a fait. Donc, c'est ça qu'il inculque à l'âge de 8 ans, à cette gamine.
Oui, tout à fait. En fait, je pense que Le père voulait que Mira soit une dure à cuire, comme lui, ouais. qu'elle lui ressemble. Et donc, pour cela, il fallait pas montrer d'amour.
Faiblesse,
il fallait
au contraire, considéré comme de la faiblesse. Faiblesse.
Exactement. Ouais. Mais ce qui est surprenant, c'est que généralement, pour une fille, à l'époque, ouais. On estime que c'est normal qu'elle exprime ses émotions. Ouais. Et ici, c'est pas le cas du tout.
Ouais. Alors, elle a eu une enfance quand même assez chaotique à cause oui. de ce que vous venez de dire. C'est elle qui avait... elle a été élevée pendant quelques années par sa grand-mère, je
oui,
crois.
Oui, tout hein. à fait. Parce qu'à ouais. la naissance de sa sœur, ses parents se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et donc, elle part chez sa grand-mère. Et là, elle a une existence un peu plus heureuse. Elle s'entend très bien avec sa grand-mère. Il y a une bonne relation entre eux. Et donc, elle mène une vie un peu moins chaotique, même si ouais. elle voit régulièrement ses parents. Ouais. Maintenant, s'ajoute à ça des problèmes à l'école.
À cause de son physique.
Voilà, à cause de son ouais. physique. Et donc voilà, certains psychiatres ont même dit que le climat de violence, les brimades reçues à l'école, l'éducation brutale de son père, ben, ont sans doute joué un rôle voilà. dans sa personnalité perturbée. Ouais. Et alors, il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est cette rencontre avec, quand elle a 15 ans, ouais. avec un garçon de 13 ans, deux ans plus jeune qu'elle, ouais. qu'elle apprécie énormément comme son frère et qui meurt noyé. Ouais. Et à partir de là, c'est quelque chose qui est ouais. très, très difficile pour elle parce que c'était une bonne nageuse. Elle pense que si elle avait été
si elle avait été là voilà, voilà. et elle a refusé d'aller nager avec voilà, lui, c'était un endroit exactement. Où les enfants allaient souvent nager oui. ensemble. Oui. Donc elle se prend une culpabilité, un sentiment de culpabilité oui. terrible. Et puis, là, on est en Angleterre, donc en général, en Angleterre, on est anglican. Voilà. Elle va changer de religion, devenir catholique. Elle va aller allumer des cierges la nuit à la mémoire de ce garçon dont elle se sent responsable de la mort.
Quoi, tout à fait. Donc elle prend la religion de ce garçon. Ouais. Et pendant quelques semaines, c'est extrêmement difficile, elle est en dépression, elle a vraiment du mal à passer le cap, et puis... quelques années après, ben effectivement, elle sort de cet état de dépression et elle devient une fille, entre guillemets, comme les autres, qui sort, qui va, qui écoute le rock'n'roll, hein, une nouvelle musique de l'époque. Elle a un petit ami, ouais. mais au départ, on pensait qu'elle voulait se marier, mais elle décide de ne pas se marier avec lui, ouais. estimant que... le type de vie qu'elle est prête à mener ne correspond peut-être pas
ouais. à ce que l'autre peut lui proposer.
Que l'autre peut lui proposer. Ouais. Ouais. Et elle est secrétaire dans une société de produits chimiques et c'est là où elle rencontre Yann Brady.
Voilà. Et là, cette fille revêche, agressive, va totalement changer de personnalité. Vous allez nous le raconter tout à l'heure. Mais d'abord, puisqu'on vient de raconter la vie de Mira jusqu'à la rencontre avec Yann, la vie de Yann jusqu'à la rencontre avec Mira. Alors là aussi, c'est une enfance assez particulière. Hein.
Oui, tout à fait. Donc en fait, il n'est pas né Yann Brady, il est né Yann Stewart, donc il est écossais.
Sa mère n'a jamais voulu lui dire que ne connaissait pas le nom de son père. Elle disait qu'il était parti...
Mais au départ, il était mort. Oui, voilà. Plus, enfin, et puis alors après, on n'est même pas sûr. Hein, elle dit qu'il était journaliste, mais on ne le saura sans doute jamais qui était vraiment son père. Ouais. Donc effectivement, c'est une situation difficile, surtout que sa mère estime qu'elle n'a pas les moyens pour l'éduquer et elle va demander à des parents adoptifs.
Elle va elle-même faire une petite annonce pour trouver des parents adoptifs pour s'occuper de son fils.
Quoi. Oui.
Il y a mieux quoi, dans la vie.
Oui, tout à fait. Oui, donc ce n'est pas une enfance facile. Alors, est-ce que c'est dû justement à cette situation un peu compliquée, un peu difficile, puisque sa mère continue quand même à le voir tous les samedis, mais ne lui dit pas quelle est sa mère.
Ah oui.
Donc c'est quand même assez problématique.
Son père, sa mère, il n'est pas sûr. Enfin,
tout à fait. Ouais. Et donc, est-ce que c'est dû à ce problème, à cette situation? Mais en tout cas, on sait que très rapidement, on se rend compte qu'il est quelqu'un de très différent, de très isolé par rapport aux autres enfants.
Très différent, quelqu'un qui a un enfant qui est cruel envers les animaux, qui torture les animaux, faut bien le dire. Quelqu'un qui plonge très tôt, finalement, dans une littérature qui n'est pas faite pour son âge et qui va avoir une véritable fascination pour la Deuxième Guerre mondiale, mais pas n'importe qui, pour les SS, pour Adolf Hitler, à qui il écoute des discours d'Adolf Hitler qu'il a acheté sur disque, etc. Et puis, aussi, il découvre la littérature du Marquis de Sade. Donc, tout ça, ça fait quand même une espèce de cocktail assez particulier, quoi. Et c'est ce garçon-là qui va trouver finalement, parce que bon, après il va s'appeler Brady parce que sa mère a un compagnon, etc., etc. Il va être adopté par cet homme, je crois.
Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, il revient dans sa famille suite à de nombreux vols et cambriolages. Oui, juge lui demande qu'il soit renvoyé dans entre guillemets sa vraie famille, puisqu'il ne connaît pas son beau-père, et il prend le nom de son beau-père.
De son beau-père. Alors il finira par faire quand même, parce qu'il n'y a pas de place partout pour les centres spécialisés pour les jeunes délinquants. Donc il va aller carrément dans une vraie prison. Là, il va rencontrer des vrais voyous. Et alors, il y a une chose qui m'a étonné quand je vous ai lu, c'est que, parce que ça, il a dû le dire, on l'a découvert comme ça, il est dans sa cellule et il est en train de se dire « qu'est-ce que je peux faire comme étude pour être un bon escroc, quoi. » Et il décide de devenir comptable parce qu'il il voit déjà très bien comment il va pouvoir devenir riche. Alors, on va faire quel point de suspension. Dans un instant, vous allez nous voir que c'est ce garçon-là, en tout cas, qui un jour trouve un boulot dans une usine de produits chimiques. Et la secrétaire, c'est Mira Hinley. Et la rencontre des deux va déboucher sur un véritable coup de foudre. Mais ce coup de foudre va avoir des conséquences terribles.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et l'invité de l'heure du crime ce soir, c'est l'historien Benoît Hamé. Il est l'auteur du livre « Les couples de tueurs en série les plus monstrueux », un livre paru en 2016, donc aux éditions La Boîte à Pandore. Et dans ce livre, il consacre un chapitre aux meurtriers, aux tueurs de la lande. Mais tout à l'heure, nous reviendrons sur le contenu de ce livre, parce que, évidemment, l'une de ces clés que vous proposez, c'est justement, après avoir lu toutes ces histoires, c'est de trouver des correspondances et des points communs. Et ils sont finalement assez nombreux, ces points communs. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on parlait de cette rencontre fusionnelle, vraiment, entre Mira Hinley, qui devient coquette, qui finalement se plie à peu près à tous les désirs, et ils sont nombreux. Et ils sont souvent très noirs de ce garçon, Ian Brady, qui, après avoir fait, comme on l'a dit, un peu de prison, etc., a voulu devenir un escroc, et qui va devenir son amant, très rapidement.
Oui, tout à fait. Donc, dès leur rencontre, dès qu'elle voit, c'est ça qui est assez surprenant, c'est dès qu'elle rencontre pour la première fois Ian Brady, elle a une attirance pour lui, alors que tout le personnel de cette entreprise trouve que Ian Brady est quelqu'un de morose, de renfrogné, et elle voit quelqu'un de formidable, qui est mystérieux, qui est énigmatique et qui sort de l'ordinaire. Oui. Et donc, sitôt que cette rencontre se fait et que Ian Brady sort avec Mira Hinley, eh bien, il va lui dire toutes ses théories nazies, il va lui demander de lire le Marquis de Sade, de lire Nietzsche, de lire Dostoïevski, Crime et Châtiment.
Ah oui, parce que Crime et Châtiment, ça fait partie aussi. Avec Mein Kampf, c'est les deux livres.
En fait, c'est l'idée de pulsion, je pense, dans les deux, l'idée de pulsion. Ouais. Et alors, elle fait tout ce que Ian Brady va lui demander. Elle est prête à tout.
Elle est prête à tout, elle ne le contredit jamais, donc lui, ça lui va très bien. Exactement. Parce que très souvent aussi, les gens comme ça, les tueurs, quoi, tueurs, bon, soit professionnels d'ailleurs, soit les tueurs en série, sont des gens qui sont très sensibles qui sont très intolérants et qui se fâchent dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, quoi. Alors, il y a aussi, je parlais de côté pervers, il n'y a pas que les pratiques sadomasochistes, parce qu'après tout, là, ce serait un jugement de dire que c'est pervers, mais c'est la perversité intellectuelle qui est intéressante dans cette histoire, parce que Yann Brady va dire, on va faire des braquages, j'ai besoin de toi, tu vas conduire la voiture. Elle ne sait pas conduire la voiture, elle prend des leçons pour conduire vite, quoi. Et il lui explique qu'ils vont aller braquer, je ne sais plus quoi, une banque. Et que quand il montera la voiture, il faudra qu'il s'échappe, etc. Ce braquage n'a jamais eu lieu. C'était un test ?
Oui, tout à fait. C'était un test. Il y a une autre affaire que j'analyse où également le tueur en série pose exactement la même question. C'est d'abord tester pour voir jusqu'où l'autre est capable d'aller.
D'être emmené, quoi.
Tout à fait. Oui, puisque non seulement elle essaie d'apprendre à conduire, même s'il paraît qu'elle n'arrive pas à obtenir son permis, mais en plus, elle apprend à tirer aussi.
Ah oui, aussi, bien sûr. Oui, ils vont tirer dans la lande, justement.
Voilà.
Il aime beaucoup la lande. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit dans son parcours de vie. Que, tout petit, je crois qu'il avait échappé à la surveillance de ceux avec qui il était.
Avec ses parents. Avec ses parents.
On l'avait retrouvé au sommet d'une petite colline, complètement transfiguré, seul face à l'univers. Et il dira plus tard qu'il avait eu un sentiment de plénitude.
Et de puissance aussi. Je pense que ça, c'est un terme qui est très important pour comprendre Yann Brady, c'est puissance. Ouais. Parce que parmi ce qu'il apprécie comme lecture, il y a aussi Nietzsche. Nietzsche, c'est la volonté de puissance. Et lui, c'est ce qu'il recherche. Il donne sa propre interprétation. C'est la puissance, c'est dominer et réaliser, tout faire ce qu'on est capable de faire. Et tous les moyens sont bons pour y arriver.
Alors, comment, là pour l'instant, il n'y a pas eu de meurtre. Il n'a tué personne, on est bien d'accord. En creusant sa biographie, on n'a jamais trouvé. Il y a de la violence, mais il n'y a pas de meurtre. Qu'est-ce qui fait, parce que là, tout à l'heure, on a parlé du dernier meurtre, celui de 1965. Comment ça commence? Dans quelles conditions? Qui est la première victime?
Alors, la logique, en fait, de Yann Brady, c'est de se dire, puisque Mira Hindley est capable de faire tout ce que je lui demande, j'ai envie de réaliser mes fantasmes, j'ai envie de réaliser, d'exprimer mes pulsions. Et l'objectif, c'est de réaliser le crime parfait. Et le crime parfait, c'est d'attaquer, de violer, de tuer de jeunes enfants, de jeunes filles. Et alors, la première, en fait, à être attaquée, ce sera Pauline Reed, donc le 12 juillet 1900. 1963, donc qui est une jeune fille de 16 ans de la région qui veut se rendre à un bal et qui n'y arrivera jamais.
Ses parents ne voulaient pas qu'elle y aille, ses amis ne vont pas l'accompagner. Oui. Elle a pourtant mis sa plus belle robe, une robe rose qui malheureusement de très nombreuses années après permettra d'identifier son cadavre. Et elle va faire ce qu'on appelle la mauvaise rencontre. C'est vraiment quelque chose de terrible. Ils ont raconté leur scénario. Parce qu'ils ont une voiture et ils s'adressent à cette jeune fille, et je crois que c'est Mira qui le fait en disant on a perdu un gant dans la lande, est-ce que vous pouvez m'aider à le trouver, quoi, on le cherche.
Oui, c'est souvent le gant qui va revenir. Parfois, il change, mais c'est souvent le gant, l'idée du gant.
Qui va revenir dans d'autres.
Et alors, la logique, c'est que ce soit souvent elle qui s'adresse justement à la victime, parce que
ça rassure.
Et ça, je pense que Yann Brady en est tout à fait conscient. Surtout que parfois, c'est elle qui emmène la fille, les jeunes filles, et Yann Brady suit en moto. Donc, il n'est pas toujours même dans la camionnette.
Donc, il y a un scénario, ils appliquent, ils jouent comme des comédiens leur scénario. Là, on est en juillet 1963. La deuxième victime, c'est en novembre de la même année, novembre 1963. Cette fois-ci, ce n'est pas une jeune fille, c'est un petit garçon, enfin un petit garçon de 12 ans.
Oui. John Kilbride, qui avait été au cinéma, et il quitte son ami. Le dernier témoin qu'il a vu, c'était sur le marché. Et puis, plus de nouvelles. Et de nouveau, ce sera le même principe, le même modus operandi.
L'histoire du gant.
L'histoire du gant perdu. Alors Mira met toujours une perruque quand même pour ne pas être identifiée parce qu'elle est très blonde, décolorée.
Elle est blonde parce que Brady lui avait demandé quand il l'avait rencontré. Hein,
et il y a un petit côté arien aussi, je pense, qui est
Bien sûr, j'avais pas pensé à ça.
Et donc, c'est le même
perruque
principe.
Noire, quoi.
Voilà, exactement. Mais c'est le même principe, on parle d'un gant perdu, on va le retrouver dans la lande et de nouveau, Yann Brady va violer le jeune garçon avant de l'étrangler. On voit toujours que beaucoup de tueurs en série, surtout les couples de tueurs en série en couple, apprécient plus quelque chose d'horrible, mais utilisent moins les armes à feu
que l'étranglement. Ils veulent voir périr
Et
jouir de la souffrance de leur victime. Alors là, il se passe encore quelques mois. Juin 1964, c'est la troisième victime. C'est encore un garçon.
Kate Bennett.
Qui a disparu, qu'on n'a pas trop cherché. On ne s'est pas aperçu qu'il avait disparu. Et là aussi, en fait, je crois que le scénario qu'ils avaient mis sur pied avec ce malheureux garçon, c'était de dire, ils avaient plein de paquets dans les bras, c'était de les aider à porter les paquets jusqu'à chez eux, en fait.
Tout à fait.
Contre rétribution, quoi.
Oui, voilà.
Et le malheureux est allé évidemment dans le piège, quoi.
Oui. Et de nouveau, on l'emmène dans les Landes. C'est de nouveau le même principe. On le viole et Brady l'étrangle.
Ouais. Ensuite, il y a la quatrième victime. Là, on est en octobre 64. Donc.
En décembre.
J'avais noté octobre 64. Une fillette de 10 ans.
Leslie Anne Downey.
C'est le 26 décembre.
Voilà,
effectivement, vous avez raison. Oui. Et le 26 décembre, c'est une fête foraine, je crois.
Oui.
Une fête foraine.
Oui.
Et eux, ils sont allés là, en fait, en chasse.
En chasse, oui.
De
disait Michel Fourniret, on parlait toujours de chasse. Mais c'est vraiment le même principe.
Là, peut-être dans la fête foraine, on va trouver
une victime. On reste longtemps, le temps de voir si on peut trouver, une victime. Et ils tombent sur Leslie Anne Downey. C'est de nouveau le même principe ici. De nouveau, il faut transporter des paquets. On les renverse même en disant, voilà, est-ce que tu peux nous aider à transporter ces paquets? Par contre, il y a quelque chose qui change par rapport aux autres, c'est qu'on ne sait pas exactement où elle a été tuée, parce qu'ici, on sait qu'elle est revenue, ils sont revenus à la maison, chose qu'ils ne faisaient pas auparavant, peut-être parce qu'ils avaient plus de confiance dans les crimes qu'ils avaient commis.
Ouais. Et on reviendra sur ces corps dont ils n'ont jamais voulu localiser l'endroit où ils les avaient enfouis. Et puis le cinquième meurtre, c'est celui par lequel on a commencé notre récit. Tout à l'heure, en octobre 1965, le meurtre devant témoin. Et on va revenir sur ce témoin dans un petit instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Voilà donc l'histoire des tueurs de la lande que nous raconte Benoît Hamé, l'auteur de ce livre, donc les couples de tueurs en série les plus monstrueux. On va parler d'ailleurs des autres couples et des correspondances qu'on peut faire avec d'autres histoires dans quelques secondes. Mais d'abord, simplement pour terminer l'histoire de Mira Hindley et de Yann Brady, dire que... on est sûr qu'il y a eu cinq assassinats, parce que ce sont vraiment des crimes avec préméditation. On a retrouvé, ce qui est terrible aussi, des cassettes vidéo où on a pu voir qu'ils torturaient leurs victimes. On va laisser ces aspects très difficiles de côté. Ils ont été condamnés pour 3 meurtres seulement, si j'ose dire, parce qu'on n'avait pas trouvé les 2 autres corps. Cela dit, ils ont été condamnés à perpétuité parce que, comme Marie Billon nous le disait tout à l'heure au début de l'émission, la peine de mort était en train d'être abolie en Grande-Bretagne. Bon, ça a fait beaucoup de débats dans la société. Dis ça parce que vous êtes spécialisé en histoire sociale et en histoire de la justice. Hein, bon, et passionné aussi par tout ce qui est la psychologie criminelle. Alors, ensuite, elle est morte en 2002. Lui, eh bien, il est mort en mai dernier. Et il y a eu ce dernier. Alors, c'est ça ma dernière question sur cette histoire. Il y a eu ce. Est-ce qu'il faut appeler ça une sorte de pied de nez ou une volonté de puissance qui veut s'exercer après sa mort, qu'on joue vraiment du Berlioz, une scène qui en plus qui rappelle les sorcières, les vampires, etc. Ce qui a été refusé, donc, redisons-le, par la justice britannique. C'est, comment vous expliquez cette volonté à mes obsèques, je veux qu'on fasse ceci, je veux, et je veux qu'on disperse mes cendres sur la lande.
Mais je pense que en fait, les tueurs en série, ce qui paraît peut-être surprenant, mais en fait, par certains côtés, ils veulent être dans la société, c'est-à-dire qu'ils veulent la réussite. Ils n'y sont pas parvenus par les moyens habituels. Et la manière dont ils estiment qu'ils ont réussi à être ce qu'ils voulaient être, qu'ils soient reconnus, c'est par leur crime. Et donc, ils apprécient énormément les médias. Ils veulent continuer à parler avec les médias. Ils veulent que les médias parlent d'eux. Et donc, ici, c'est de nouveau, effectivement, on va encore parler de moi. Je vais encore choquer. J'ai encore réussi, justement, à ce qu'on parle de moi.
Même et donc, si je ne suis plus là pour le constater.
Voilà, exactement. Jusqu'au bout.
C'est quand même ça, l'histoire
de... Oui, mais c'est le même principe. Ouais. Et il va même aussi, on en parle très peu dans les médias britanniques, mais il a écrit un livre aussi.
Ah oui, bien sûr.
Donc c'est de nouveau le même principe. Je
pour
vais
expliquer
choquer.
Le mécanisme. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un tueur en série
exactement.
Moi, je vais vous raconter.
Voilà,
et
exactement.
Il explique qu'il n'est jamais satisfait de meurtre en meurtre.
Voilà.
Et que c'est pour ça qu'il continue. En fait. C'est ça, le truc.
Tout à fait.
Alors, laissons ce couple de côté. Il n'y a pas tellement de choses qu'on aurait pu dire encore. Mais bon, quelles sont les correspondances que vous voyez avec d'autres histoires que vous avez racontées dans votre livre? Je rappelle, les couples de tueurs en série les plus monstrueux. Ce qui voudrait dire qu'il y a des moins monstrueux.
C'est subjectif, bien évidemment, mais c'est vrai que les couples de tueurs en série font effectivement des choses vraiment monstrueuses et abjectes. Je pense que ce qu'on retrouve généralement, c'est qu'il y a quand même le système de dominant et dominé.
Ouais.
Ça,
dans le couple,
et 9 fois sur 10, bon, voilà, c'est l'homme qui domine, qui domine la femme, qui est manipulateur. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas responsable de ses actes non plus, qu'elle ne manipule pas non plus.
Voilà.
Parce
qui tire vraiment les ficelles? Est-ce que c'est la marionnette
voilà.
ou est-ce que c'est la marionnette qui tire les ficelles du marionnettiste aussi, hein.
Moi, je pense qu'en tout cas, le manipulateur, celui qui domine l'homme, a quand même besoin de sa femme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a choisie. Il l'a choisie parce qu'il sentait sa fragilité. Alors, ce qu'on remarque d'ailleurs souvent, c'est que ces femmes donc, sont fragiles, mais ont vécu une enfance très difficile. Et alors souvent, on choisit un métier ou un hobby en lien avec le social. C'est-à-dire dans l'aide tournée, enfin ils sont tournés vers les autres. Sans doute dû à souffrances qu'elles ont vécues dans leur enfance. Et je pense que les tueurs en série, l'homme dans ce couple-là a senti justement cette fragilité, senti aussi qu'elle était prête à tout. Et si elle pouvait aider son prochain, elle pouvait aussi l'aider lui. Donc quand on voit ici l'affaire qu'on vient de traiter, c'était une merveilleuse babysitter. Michel Martin de Marc Dutroux, elle était enseignante. Michel Martin, Monique Olivier, elle était aide-soignante. Donc, de nouveau, on retrouve, on pourrait même parler de Homolka, donc dans le couple de tueurs en série canadien, où elle s'occupe, elle adore les animaux, donc elle veut être vétérinaire. Donc, de nouveau, il y a toujours ce lien quand même régulier qui se fait. Donc, il y a quand même un certain nombre de similitudes. Généralement aussi, l'homme a connu une enfance assez particulière et assez perturbée. De nouveau, je pense qu'il y a cette volonté, on parlait tout à l'heure, de cette volonté de puissance, de dominer, de réussir, d'exister en montrant que pour réussir, eh bien, tous les coups sont permis. On pourrait hélas, faire une similitude peut-être avec le monde dans lequel on vit, où tous les coups sont permis, et eux, ça va jusqu'à tuer pour réussir, pour obtenir ce qu'ils veulent.
Ouais, parce que bon, on peut pas prendre d'autres exemples très particuliers, mais vous dites que vous avez retrouvé en écho à ce que vous avez dit sur Brady et sur Hinley, la mise à l'épreuve.
De
l'autre,
oui.
La complicité dans l'accomplissement du scénario.
Oui.
On pense à Monique Olivier et on pense donc évidemment à Mira Brady. Quelle que soit finalement la nationalité, la culture, le mécanisme semble très proche.
Tout à fait. Tout à fait. Il y a bien sûr des différences dans les différents couples, mais les mécanismes sont les mêmes. L'idée que la majorité d'entre eux ont commencé par des vols, par des cambriolages, donc étaient attirés par l'appât du gain. Et puis alors après, on est passé dans réaliser ces fantasmes les plus abjects.
Tu es une fois.
Oui.
Et peut-être que c'est justement ce premier meurtre qui déclenche finalement la série. Juste une question, on est à 30 secondes de la fin de l'émission. Benoît Hamet, qu'est-ce que vous répondriez à la question que je posais au début de l'émission ? Si ces gens ne s'étaient pas rencontrés, est-ce qu'il y aurait eu parmi eux des tueurs ?
C'est très difficile de répondre à cette question. Je pense que les hommes dans ces couples tueurs en série auraient peut-être tué, mais peut-être pas avec la facilité qu'ils ont pu obtenir grâce aux femmes.
Grâce à la complicité des femmes. Oui. Voilà. Ben non, il n'y a pas de morale à l'histoire. Désolé, dans cette histoire-là non plus, il n'y a pas de morale. Je vous remercie beaucoup, en tout cas.
Merci
infiniment de vos éclairages. Et merci à Ludivine, donc cette auditrice d'RTL française vivant au Royaume-Uni, qui a attiré notre attention avec un petit message sur RTL.fr en disant « On parle beaucoup de cette affaire en Grande-Bretagne, est-ce que vous ne pourriez pas nous la raconter en détail ?» Eh bien voilà, c'est fait, mission accomplie. L'émission est maintenant terminée. À la semaine prochaine.